Deux disciples quittent Jérusalem. Ils font partie du groupe le plus proche de Jésus, ceux qui l'ont suivi depuis longtemps, qui ont entendu son message. Ils font partie des nôtres, pourrait-on dire. Ce ne sont pas des occasionnels. Ils ont reçu une excellente catéchèse, mais ils s'en vont, dans un moment de crise, de découragement. Ils se sentent perdus. Ils ont l'impression de s'être fait des illusions. Ils sont dans la confusion. Ils s'en retournent à leurs affaires, à des réalités plus concrètes. Ils vont peut-être retrouver leur famille, leur travail antérieur, leur village. L'histoire avec Jésus laisse de la déception, du tourment, un malaise dans leur cœur. Et ils se demandent pourquoi ça n'a pas bien tourné, qui est responsable. Ils en discutent entre eux. Puis Jésus les rejoint. Il s'approche et fait route avec eux. Il prend l'initiative de s'approcher. Il se met à cheminer à leurs pas, sans s'imposer dans leur conversation. Il se fait accepter comme un compagnon de voyage, inconnu et discret, qui ne s'impose pas. Et tout naturellement, il en vient à se mêler à leur conversation, en leur demandant de quoi ils parlent. Il aurait pu intervenir plus brutalement, en leur parlant de la gloire de Dieu, en se présentant à eux immédiatement, comme le ressuscité. Non, il va aider les disciples à chercher par eux-mêmes. Il va leur poser la bonne question pour qu'ils s'expriment sur ce qui les habite. Jésus a autant l'art des questions que des réponses. Il comprend que le sujet dont il parle est grave et il ne cherche pas à les détourner de leur conversation. Alors, Cléophas va raconter à Jésus sa propre histoire. Et de manière étonnante, il va employer les mêmes expressions, les mêmes mots que les apôtres dans leur proclamation après la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres que nous entendons en première lecture ce dimanche. Cet homme, qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. C'est le message fondamental de l'Église primitive que ces hommes annoncent. Mais ils l'annoncent comme s'il s'agissait d'un malheur. Ils annoncent le salut comme s'il s'agissait d'une mauvaise nouvelle. Ils vont même raconter la résurrection tout en doutant. Ils racontent l'histoire de Jésus comme des événements auxquels ils ne comprennent rien, auxquels ils ne croient pas. C'est une annonce faite en parole, mais non pas avec le cœur, ou plutôt avec un cœur rempli de tristesse, de résignation, de déception. Alors comment Jésus va-t-il pouvoir réagir face à cette situation? Pensons à la manière dont nous réagissons quand nous nous trouvons face à des gens qui sont ainsi dans des situations douloureuses ou sans issue. Jésus va réagir en trois étapes. La première étape est qu'il exprime son indignation et qu'il leur adresse de violents reproches. Gens sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Il les secoue. Il veut les ramener aux réalités essentielles. Vous vous croyez disciples de Jésus et vous n'avez rien compris. Tout ce que vous avez vu et entendu ne vous a donc servi à rien. Puis, deuxième étape, il cite l'annonce biblique pour expliquer comment le salut doit s'opérer. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Il leur offre une clé pour interpréter le sens des événements qui viennent de se produire. Les faits restent les mêmes, mais la clé permet d'ouvrir la porte de la compréhension et de donner aux faits un tout autre sens. La question de ces hommes, au fond, était de savoir si Dieu était présent ou non dans les événements qu'ils venaient de vivre. Nous pouvons, nous aussi, nous poser cette question sur les événements de notre vie, en particulier en ce moment. Et la réponse du voyageur est simple. Dieu tient toutes choses dans sa main. Il était dans son plan que tout s'accomplisse ainsi, que Jésus soit condamné et meure. Ce plan de salut, il est déjà présent dans les Écritures. Jésus parle ici à la fois en maître, en évangélisateur. Il met en œuvre toutes ses qualités d'interprète des Écritures, qu'il connaît par cœur bien sûr, et donne ainsi aux disciples les lumières dont ils ont besoin. Mais il parle aussi en ami, qui réchauffe le cœur, qui allège la souffrance du cœur découragé. Enfin, la troisième étape, c'est le moment où Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain. Ce rite qui leur est déjà familier, Luc nous l'indique ici comme symbole de toutes les manifestations futures de Jésus dans son Église par l'Eucharistie. Désormais, c'est ainsi que Jésus se fera proche et se rendra présent. La proclamation du salut se termine par la rencontre. Le moment où Jésus n'est plus seulement celui qui chemine à côté, mais celui qui habite le cœur et qui redonne énergie et joie pour aller à nouveau vers les frères, pour partager l'annonce reçue. Ce moment du repas et de la reconnaissance est très court sans doute, par rapport à la durée du cheminement. Mais c'est un éclair de lumière, et désormais les disciples l'emportent partout avec eux. Ils ont dans leur cœur une certitude et une confiance que rien ne pourra supprimer. Jésus est venu les rejoindre, là où ils étaient, même enfermés dans leur tristesse. Ce moment de rencontre est le sommet de ce récit, l'aboutissement de ce long cheminement avec Jésus, et il va devenir une source pour leur vie. Nous pouvons nous poser trois questions après avoir entendu cet évangile et son commentaire. Ces questions peuvent servir à notre réflexion personnelle ou à un échange entre nous. Première question, est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où je ressemble aux deux disciples, où je n'y crois pas vraiment, où je dis ou j'entends les paroles de la foi sans que cela soit pour moi une source de joie et de vie. Deuxième question, quels sont les témoins, les rencontres, les éclairages qui dans mon cheminement m'ont fait mieux recevoir l'Évangile, qui m'ont donné la joie de croire, ont réchauffé mon cœur? Et puis troisième question, est-ce qu'il y a eu dans ma vie des moments de reconnaissance de la présence de Dieu, de sa lumière dans mon existence, des moments sources et sommets dont je peux faire mémoire ?